franceinter.fr.
Pierre, on se retrouve tout à l'heure et bonjour Alain Baraton, bonjour Alain.
Bonjour Julia.
Alors un cadeau à mettre sous le sapin, en tout cas c'est la plante la plus vendue à Noël, c'est le poinsettia.
Eh oui, une plante connue de tous qui offre des bractées ou des pièces florales. Si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la plante, elle présente des feuilles le plus souvent rouges, mais il en existe aussi des roses et des blancs crèmes. Enfin quand je dis des feuilles, donc des pièces florales. Le poinsettia ou poinsettia, moi j'ai tendance à dire le poinsettia, mais j'ai jamais vraiment su s'il fallait dire tia ou sia d'ailleurs. Eh bien vous l'avez dit, et la plante d'intérieur la plus vendue, et pas seulement pendant les fêtes.
Mais pardon, vous deviez pas m'en apporter une pour aujourd'hui ?
Mais c'est fait.
Elle est
en place, et au moins je suis certain que Patricia Martin ne vous la volera pas. Donc je disais que cette plante est la plus vendue, et pas seulement pendant les fêtes. Chaque année, il en est produit pour le seul marché européen près de 100 millions, et les premiers clients sont les Allemands, avec 35 millions de pots, suivis par les Italiens, 25 millions, les Espagnols, 6 millions, et les Français qui en achètent presque autant que de sapin Noël, avec près de 5 millions de pots.
Et son succès va bien au-delà de l'Europe, puisque c'est aux États-Unis qu'elle est extrêmement populaire également.
Tellement populaire qu'il en est vendu dans ce pays 65 millions, c'est considérable. Et sachez aussi que la plante est si populaire qu'une journée lui est consacrée, et consacrée, attendez, c'est pas quand même pas rien, par le Congrès, et ce depuis 1851, l'occasion de célébrer John Poinsett, un ambassadeur américain qui l'a introduit du Mexique en Caroline du Sud et qui lui a donc donné son nom.
Ah mais oui Alain, car comme souvent, il existe de bien jolies histoires à propos des plantes.
Et oui, la plus ancienne, et c'est logique vu les origines du poinsettia, est une légende aztèque. Elle raconte qu'une divinité jeune et belle et très appréciée des mortels est quittée par le dieu qu'elle aimait. Son chagrin est si fort que son cœur saigne. Son sang goûte alors sur la plante qui se teinte immédiatement de rouge.
Et pourquoi le poinsettia s'appelle-t-il étoile de Noël ?
Au XVIIe siècle, les prêtres franciscains qui s'installent au Mexique convertissent au christianisme la population. Ils utilisent alors la fleur pour décorer l'autel lors des célébrations religieuses et en particulier, bien sûr, le soir de Noël.
Mais alors du coup, Alain, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui en ont reçu pour les fêtes ?
Eh bien justement, ne sachant pas si vous aviez la main verte et pour être sûr que vous prendrez soin...
Moi ? Oui. Pas du tout, tout meurt avec moi,
voilà,
pardon.
Donc justement, donc j'ai noter pour que l'énorme poinsettia que vous allez retrouver sur votre bureau, justement, vous puissiez bien l'entretenir. Donc sachez que déjà, il vous faudra le protéger des courants d'air. En le sortant tout à l'heure pour le ramener chez vous, attention, il déteste les courants d'air.
Je vais le mettre dans mon manteau.
Voilà, dans le manteau, mais ne le serrez quand même pas trop fort, la plante est délicate.
D'accord.
Ne l'installez pas non plus près de la fenêtre, surtout si vous aérez de temps en temps chez vous, et aussi pour ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil. La plante ne supporterait pas à arroser régulièrement.
Je la mets dans mon placard.
Non, parce que... Mais attendez, on y revient. Vous ne croyez pas si bien dire finalement. Donc jusqu'à présent, pas de problème.
D'accord.
Vous la mettez dans une situation normale. Vous l'arrosez régulièrement et sans excès. Mais vous faites en sorte que la plante ne manque jamais d'eau. Là aussi, attention, pas de soucoupe avec de l'eau. Les racines ne supporteraient pas. Quand la plante va perdre ses couleurs en mars-avril, rassurez-vous, c'est normal. Que faites-vous ? Simple, vous coupez les tiges à environ 10 cm de la base. Et dès le mois de septembre, eh bien, vous ouvrez votre placard et vous mettez, vous avez eu raison de le dire, votre plante dedans pour qu'elle passe des nuits de 12 heures.
Ah, voyez ?
Oui.
J'ai quand même de bonnes idées.
Ah, tout à fait. Donc 12 heures d'obscurité totale. Le reste de la journée, là, vous la mettez en pleine lumière et vous aurez l'an prochain, pour les prochaines fêtes de Noël, une plante qui aura retrouvé sa couleur rouge, rose ou blanc crème.
Eh bien, merci beaucoup, Alain Baraton. Alors, pas mal de questions aujourd'hui encore. C'est Jérémy qui nous dit « Le hou sur ma pelouse n'a pas fière allure et peu de boules. Pourquoi, Alain ?»
La nature est extraordinairement bien faite. Je suis persuadé qu'à l'origine, il n'y avait pas de pelouse. À l'origine, il y avait un sous-bois. Le hou est une plante qui a besoin d'être protégée des rayons du soleil. Et c'est la raison pour laquelle c'est une plante qui aime vivre à l'ombre des grands arbres. Et en hiver, les grands arbres perdent leurs feuilles. Donc le soleil peut apparaître et la plante peut en profiter. Et le hou profitera donc de l'hiver pour produire ses fruits, ses fameuses baies rouges qui décorent aujourd'hui quantité de boutiques, car le hou est la plante symbolique des fêtes de fin d'année. Donc un hou en isolé au milieu d'une pelouse sera jamais en très grande forme. Il aime bien être protégé, surtout en été, des rayons du soleil le plus brûlant.
Pour retrouver tout son éclat, une question de Fabrice. Existe-t-il une astuce pour limiter les mauvaises herbes dans les allées ?
Eh bien, je suis preneur.
Ah,
c'est-à-dire que
si...
Eh ben non, je n'en connais pas malheureusement. Alors, il est est toujours possible de mettre du plastique, des cartons pour priver le sol de lumière. Avouez que c'était pas très esthétique. On peut mettre une importante couche de gravillon, ça réduira considérablement. On évitera, j'en parlais d'ailleurs, c'est marrant, la semaine dernière, avec Patricia Martin, qui apparemment n'a pas supporté les fêtes de fin d'année. Je pense qu'elle a peut-être fait overdose de chocolat.
Du tout, voilà. Ça ne lui ressemble pas du
et
tout.
Et nous parlions de l'arrosage intégré, justement. Eh bien, l'arrosage intégré a l'inconvénient souvent d'arroser les allées et l'eau va favoriser les mauvaises herbes. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de produit aujourd'hui naturel.
Il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas de solution. La binette, l'huile de coude.
Faut limiter la casse, quoi.
Et puis, de temps en temps, se dire que finalement, un petit pissenlit, c'est pas si vilain que ça. Vous avez déjà observé une fleur de pissenlit?
Oui, c'est joli.
C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et puis après, la fleur se transforme et va produire des graines. Regardez comme c'est beau les graines. On souffle, on fait des vœux et parfois il paraît que ça marche.
Eh ben, vive le pissenlit. Un message de Catherine. Les boutons de mon camélia qui vit en pot et dans ma cour sèchent et ne s'ouvrent pas. Pourquoi ?
La plante a besoin d'une certaine humidité et lorsque l'humidité manque, eh bien la plante préfère avorter. Eh oui, saviez-vous que la production d'une fleur est ce qui fait certainement le plus souffrir un végétal, c'est une énergie inouïe. Et quand la plante pense qu'elle ne
comme quand on accouche,
eh bien, en quelque sorte.
À peu près.
Eh bien, je ne pense pas qu'une femme qui accouche aura envie le lendemain, eh bien, de faire ou une grande promenade, parce qu'elle a besoin de se reposer.
C'est ça.
Une plante a une énergie inouïe pour produire les fleurs puis ensuite les fruits. Si elle sent qu'elle ne pourra pas mener à terme la floraison ou la fructification, elle préfère se débarrasser tout simplement, eh bien, de ce qu'elle produit. Et c'est ce que le camélia fait. Il manque d'humidité, donc il se débarrasse des fleurs. Donc que faire ? Eh bien, le bon vieux pchip-pchip, vous vaporisez de l'eau, la plante retrouvera un environnement humide qui lui convient et elle pourra ainsi fournir des fleurs en abondance.
Un message de Pierre-Louis. J'ai reçu en cadeau un bonsaï. Faudra-t-il que je le rempote ? Et si oui, quand ? Et avec quelle terre, Alain Baraton ?
Quand vous offrez un bonsaï, d'ailleurs on ne dit pas bonsaï, mais bonsaï. On a souvent
tendance... Ah pardon !
Ah mais moi je suis comme vous, je dis la même chose, j'ai beau le savoir.
C'est à cause de bonsaï.
Oui, mais on dit oui, le cri du kamikaze asiatique. Non, le bonsaï est une plante, quand vous l'offrez, il ne faut pas oublier d'offrir avec le jardinier. Parce qu'il y a quantité de bonsaï...
Pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous diriez que c'est comme les animaux, ça s'offre pas à Noël des plantes ?
Si, on peut les offrir, parce que quantité de ceux qui nous écoutent ont la main verte, sauf que le bonsaï, c'est une philosophie. Quand vous êtes face à un arbre, un petit arbre, que vous travaillez pour qu'il soit nanifié, il faut avoir la philosophie, une philosophie particulière. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le grand maître des bonsaïs dans le monde. Il était en charge de la collection des plantes de l'empereur du Japon. Et c'est lui-même qui m'a expliqué qu'avant de couper, de tailler un bonsaï, on doit fermer les yeux. On doit faire le vide au fond de soi. Et quand on ouvre les yeux, c'est pas l'arbre qui est petit, c'est vous qui êtes un géant. Quand vous avez donc compris cette philosophie, vous avez tout compris. Un bonsaï, c'est un état d'esprit, une manière de faire. Si on ne sait pas cultiver un bonsaï, il faut apprendre avant de devenir propriétaire.
Un message d'un certain Anselme, ou F. Anselme, comment vous diriez-vous ?
Peut-être, je ne sais pas. F, ça peut être Françoise.
Ça pourrait être Frédéric. Anselme, je ne sais pas. Bref, oui. F. Anselme, Frédéric Anselme. Allez, va pour Frédéric. J'ai un hibiscus en pot que je rentre en hiver pour éviter qu'il gèle. Il continue à fleurir. Dois-je supprimer fleurs et boutons jusqu'au printemps ? Est-ce que cela peut épuiser la plante de ne jamais cesser de fleurir ?
Je suis un peu embêté pour répondre à cette question pour une raison simple. Il existe pour moi deux sortes d'hibiscus. L'hibiscus d'intérieur, celui qu'on appelle également la rose de Chine, et pour faire savant, c'est l'hibiscus rosa sinensis. Et à ne pas confondre avec l'arbre en mauve, ou l'altea, ou encore, là aussi, l'hibiscus syriacus, qui lui vit dans le jardin. Deux plantes, deux besoins différents. Si la plante qui vit à l'extérieur et qui fleurit doit être rentrée à l'intérieur, et s'il s'agit d'un hibiscus syriacus, il n'a aucune raison de fleurir maintenant et il ne supportera pas d'être en intérieur. S'il s'agit au contraire de la rose de Noël, ou de la rose de Chine, pardon, il n'y a aucune raison de le laisser prendre le froid. Il se doit d'être à l'intérieur. Il devrait même y être depuis longtemps. Donc non, on ne laissera pas. On laisse les fleurs sur la plante, on en profite, on la regarde et on taillera la plante uniquement après qu'elle ait produit ses fleurs.
Eh bien, merci beaucoup Alain Baraton. Voilà, on sait tout. Je vous souhaite un bon réveillon.
À vous aussi, soyez sage et raisonnable.
Mais je vais tenter, je ferai comme vous.
Et on vérifiera demain matin.
Ça marche, à demain Alain.